C'est donc Emmanuel Macron en visite pendant 2 jours à Amiens, où le retour de l'enfant prodige dans sa ville natale.
Oui, pour montrer le président qu'il est toujours connecté aux réalités françaises. Il y a donc passé 2 jours hier et aujourd'hui. Il a notamment rencontré ce matin les ouvriers de l'ancien site Whirlpool. On le sait, un lieu très symbolique de la dernière élection présidentielle et des problèmes que rencontre l'industrie dans notre pays. Des échanges musclés, cash, pendant une heure. On va en regarder un extrait.
Je viens au printemps 17.
Ouais.
Il y en a d'autres qui vous disent Whirlpool ne fermera pas avec moi. Est-ce que moi je vous ai tenu ce langage? Non.
Ça a fermé quand même.
Non, mais j'ai dit que ça fermerait. Je vous l'ai dit. Les yeux dans les yeux.
Oui.
Vous étiez là,
oui,
vous
oui, ouais. Avec de l'emploi sur le
et
site.
Je vous ai dit, l'engagement que je prends, c'est que l'ensemble des salariés de Whirlpool retrouvent des perspectives et des emplois. Et on va se battre pour ça. Ouais. Donc je n'ai. Attendez.
On est en 2020.
Le temps passe.
Laurence Tayad, il fait ce qu'il peut, le président de la République. On a tendance peut-être à lui imputer tous les problèmes de l'industrie française aujourd'hui.
Alors, il y a les problèmes de l'industrie française, mais je pense qu'il est surtout dans une période où les personnes qui étaient les plus déclassées et qui étaient les fameux gilets jaunes qu'on a vus dans les rues, finalement, n'ont pas du tout profité des mesures qui ont été prises, puisque c'était des gens qui étaient à moins de 1 800 euros. On voit bien que c'est la classe populaire entre 1 800 et 3 800 euros qui a profité pleinement des mesures, et puis les beaucoup plus riches. Mais cette classe-là, qui est à moins de 1 800 euros par mois, qui ne paye pas d'impôts, qui donc ne paye pas de taxes d'habitation, finalement, c'est pas du tout sensibilisé par les mesures qui ont été prises, et donc ils se retrouvent face à ces personnes-là qui se sentent totalement déclassées. Il ne faut pas oublier aussi que ce sont des personnes qui ont vu disparaître les écoles, qui ont vu disparaître les services publics, même s'ils sont en train de revenir dans certains endroits. Et donc finalement, la grogne, elle est générale, elle est populaire. Et à mon sens, là, c'est plutôt gentil ce qu'on a vu, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un tri des personnes qui pouvaient accéder à Emmanuel Macron. Donc il n'a pas été tellement bien accueilli dans un endroit.
Ça, c'est les ouvriers de Whirlpool. Ils n'ont pas ménagé.
Oui, c'est les ouvriers de Whirlpool. Mais bon, si on prend la globalité de son déplacement, on se rend bien compte qu'il n'a pas été accueilli comme l'enfant du pays, un espèce d'enfant prodige. Finalement,
On est à mi-mandat. Il a été élu dans un contexte extrêmement brutal, avec Marine Le Pen au deuxième tour. Est-ce qu'en 2 ans et demi, Emmanuel Macron, il a contribué à réduire les fractures françaises qui ont contribué à le porter au pouvoir, ou est-ce qu'au contraire, elles se sont creusées?
D'abord, il faut sortir de cet esprit de royauté. Tout ne dépend pas du président de la République.
Mais il a été élu pour ça, quand même.
Il a été élu pour ça. Mais ce que je remarque, simplement, c'est qu'on insiste beaucoup sur les mauvaises nouvelles, sur tout ce qui va mal en France. Il a raison de ce point de vue-là. Quand vous regardez, c'était marrant, c'était la une du Financial Times cette semaine. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises en France que depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'y a jamais eu autant de création d'emplois depuis... On n'en parle pas, c'est des trop bonnes nouvelles, c'est en bas de page, ou dans les journaux économiques. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a des choses qui vont bien en France, mais nous, on fait le focus sur ce qui va mal. C'est extraordinaire, c'est un peu l'esprit...
C'est la faute des journalistes, vous écoutez. Vous êtes journaliste et c'est la faute des journalistes.
Mais d'abord nous-mêmes, oui, bien sûr, parce que c'est ce qui vend. Mais c'est extraordinaire. Tout à l'heure, je fais un tweet à propos d'un retard du Thalys. Et aussitôt, quelqu'un dit « Ah, les problèmes de riches ». Prendre un Thalys, prendre un TGV, c'est un truc de riche. Donc on est toujours le riche, le pauvre de quelqu'un. Ce pays.
Mais quand le Thalys arrive à l'heure, vous ne tweetez pas.
Si, je dis bonne nouvelle. C'est faux. Je tweete justement toujours le Thalys. Ça arrive une fois par mois.
Est-ce que, Alexis Poulain, est-ce que c'est l'échec de cette politique de réduction des inégalités qui explique cette crainte générale qui se présente là avec ce mouvement du 5 décembre, cette crainte générale
de la planète?
On ne peut pas continuer effectivement à faire comme si on faisait des politiques qui réduisaient les inégalités et qui vont les augmenter sous prétexte que tout le monde va y perdre. La réforme des retraites, c'est tout le monde perdant. Alors oui, c'est égalitaire, tout le monde perd. Donc là, vous avez des gens qui se disent, mais pourquoi on fait une chose pareille? Et en parallèle, vous êtes en train de saboter l'assurance chômage, parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut effectivement réduire les dépenses publiques. Et en parallèle, eh bien, l'école va devenir compliquée, vous avez la précarité étudiante qui revient sur la table. C'est-à-dire que, oui, les Français ont peut-être une vision négative de la réalité, mais peut-être vivent-ils dans un réel difficile. Alors c'est facile de voir le bon côté des choses, quand on peut prendre le Thalys, effectivement, quand on est sur de belles chaises ou sur une belle moquette à 300 000 euros. Peut-être c'est plus difficile quand on est dans un logement insalubre, quand on a du mal à trouver un emploi. Il y a toujours la misère. Voilà. Et tant qu'il y aura la misère, et c'est pas moi qui le dis.
La réalité des chiffres, c'est une augmentation de 400 000 personnes en dessous des seuils de pauvreté en un an. C'est 9 millions de pauvres en France dans un pays qui est censé être un pays riche. Ça, c'est la réalité des chiffres. Donc, et ces personnes-là n'ont pas bénéficié des mesures qui ont été prises. Et en l'occurrence, de l'autre côté, l'État continue à s'engraisser, ne fait aucun effort sur justement la réforme réformes structurelles de l'État qui devraient être une urgence justement pour faire des économies d'échelle. Donc forcément, les gens se crispent sur ces questions-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec des Français qui veulent que l'État eh bien, soit là, ne pas trop dépenser, et en même temps à qui on demande beaucoup, parfois, pour redresser une industrie qui n'a plus les atouts nécessaires.
Mais d'abord, qu'est-ce qui coûte cher aujourd'hui dans les dépenses publiques? Il faut regarder qu'est-ce qui coûte cher. C'est effectivement les dépenses quotidiennes, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, je sais que je vais me faire insulter, et les retraites. Le poids des retraites est absolument faramineux dans les dépenses publiques françaises. On n'arrive pas
et le millefeuille territorial.
Oui, mais ça, c'est presque rien à côté des retraites. Et donc, on n'arrive plus, effectivement, à financer des dépenses d'avenir. C'est un vrai sujet. Mais je rappelle, parce que quand même, ce que vient de dire Alexis, je ne peux pas laisser passer, la France est un des pays les plus égalitaires de la planète. Je veux dire qu'après redistribution, parce que l'État redistribue, on prend aux plus riches, on redonne aux plus pauvres. Aujourd'hui, nous sommes juste derrière le Danemark en termes d'égalité entre les plus riches et les plus pauvres.
Mais c'est ça que les gens contestent. C'est ça que les gens contestent, en fait. Ce que les gens contestent, c'est le fait de ne pas pouvoir vivre dignement de leur salaire. Or, aujourd'hui, ils sont obligés d'être là à attendre que l'État leur reverse de l'argent parce que leur salaire n'est pas suffisant pour vivre. Oui, mais c'est bien. Je pense que c'est là qu'il est le problème. C'est la question des revenus de l'activité et non pas des revenus redistributifs.
Qui gagne le plus?
Un mot, Alexis Poulain, un mot.
Eh bien, c'est le mot de Victor Hugo. C'est tant qu'il y aura des pauvres devant les palais, vous n'aurez rien fait.
Eh bien, merci.